La catégorie. Oh là là, Gush Shedding. Voilà. Voilà, c'est pas malheureux ça. Le raid. Ah ben voilà, il y a un raid. Alors, pendant que je suis en train de bricoler mes trucs et de regarder mes histogrammes, pendant ce temps, on me raid. Ah oui, un télo, merci, merci à tous et salut les raiders. Vous arrivez pile à l'heure. On en parlait justement à l'instant de l'importance d'arriver pile à l'heure dans les streams. Parce que quelqu'un qui arrive en avance dans ton stream, bah c'est mal poli, t'as pas fini de faire le ménage, t'as pas passé l'aspirateur et lui est là. Non mais je vais attendre dans le canapé, hein, t'embête pas. Mais il embête. Eh ben non, vous arrivez à l'heure et ça c'est très très apprécié. Merci la rigueur. Le ciel tombe sur Agar, pas du tout, pas du tout. Le ciel tombe sur rien du tout. Déjà, tout a fonctionné. Bon, à part mon run dans The Tribe Must Survive qui a été un peu nul vu que tout le monde est mort. Mais sinon, sinon, tout a très bien fonctionné. Regardez, j'ai réussi à part la catégorie qui n'avait pas marché, tous les changements dans OBS ont marché du premier coup. Bon, allons-y. Donc, on a pas mal d'actu aujourd'hui. Alors, je vous préviens, je ne sais pas comment vous prévenir en fait. Zentrodi, oh merci, merci. Zentrodi, ouais, va y avoir du Nutri-Score. Ah, va y avoir du bon Nutri-Score. D'ailleurs, il faut que je prépare mes petits. Ça y est, voilà, mon petit machin Stream Deck. Merci Details, mais disons Zentrodi, merci à toi. Alors, ça, Nutri-Score. Ah, il faudrait avoir des Nutri-Score pour les viewers aussi. Franchement, on devrait faire un truc comme ça. Où vous auriez. Ce serait intéressant de faire un truc comme ça, un site, où il y aurait quel Nutri-Score est-ce que vous vous attribueriez, et les gens pourraient aussi vous attribuer un Nutri-Score. Et ce serait intéressant de voir l'écart entre le Nutri-Score qu'on s'attribue et le Nutri-Score que les gens nous attribuent. Je pense que ce serait un outil de connaissance de soi assez impressionnant. Donc, bon, alors oui, comment est-ce que je disais? Oui, alors, je préviens tout de suite, ça va encore être un numéro glauque. La première partie, au moins. Parce qu'on va encore continuer à parler des licenciements et de la catastrophe dans l'industrie, machin. On va essayer de remonter aux causes de tout ça, essayer de comprendre pourquoi c'est la catastrophe. Ensuite, comme à chaque fois dans toute l'histoire de la civilisation humaine, quand il y a un truc qui ne marche pas, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un bouc émissaire. Donc là, on va proposer différents boucs émissaires à tous les malheurs qui assaillent l'industrie du jeu vidéo. Comme ça, on dira bouh, bouh, c'est leur faute à eux, c'est toujours pareil. Et une fois qu'on aura fini ça, qu'on sera bien purgé de nos passions tristes, merci la rigueur, décidément. Et ben ensuite, on parlera d'actualités un peu plus rigolotes. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on attaque dur. C'est un peu comme, imaginez un restaurant où il n'y aurait pas une entrée, mais on vous servirait d'abord un steak cru. Il faudrait le manger comme ça, t'es là, c'est dégueulasse et tout, tu transpires, tu pleures un peu. Et quand t'as fini de l'ingurgiter, là, on t'apporte des petites douceurs, une sorte de petit café gourmand avec des petits gâteaux très bons. Ben, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Préparez vos estomacs. J'ai un problème avec la bouffe, parce que entre le Nutri-Score et le fait que c'est toujours des métaphores alimentaires qui me viennent à l'esprit, il y a vraiment un problème. Mais là, c'est de streamer à 20h, en fait. C'est l'heure à laquelle les gens normaux, les bons chrétiens, mangent avec leurs enfants et leurs femmes après avoir dit le bénédicité, quoi. Et moi, je suis devant un écran à parler à des amis imaginaires. Du coup, j'ai faim. Bref, merci Antoine. Merci Setski. On va pouvoir attaquer. Donc, devant France 2, évidemment. Devant France 2, pour regarder les vœux du président. Ce serait que moi, président, vous auriez des vœux chaque jour. Chaque jour, des vœux différents. Je vous présenterai aujourd'hui, voilà mes vœux pour le 4 mars 2024. Ce serait très bien. Mais je sais que vous n'existez pas, je sais que vous êtes tous générés par ChatGPT. Bon, alors allez, on attaque, on avait dit, on attaque avec les mauvaises nouvelles, comme ça ce sera fait. C'est un mauvais moment à passer, serrez les dents. Et puis après, on passe aux choses rigolotes et joyeuses. Attention, est-ce que ça marche? Ça marche. Nutri-Score, ah, c'est quand même une des grosses actus du moment. Vous ne l'avez pas raté. Donc voilà, la sarabande des licenciements continue, la catastrophe générale dans l'industrie. Cette fois-ci, c'est Sony qui a viré 900 personnes chez PlayStation, qui a annulé des projets et qui a fermé surtout le studio de Londres. Donc c'est absolument c'est une catastrophe abominable. Donc le studio de Londres, c'était quand même un studio qui avait quand même une longue histoire c'est en gros le studio le plus important de Sony à Londres. Ça a touché plein plein en Europe, pardon, je veux dire, ça a touché plein plein d'autres studios. Ça a touché Naughty Dog, Insomniac Games, Guerrilla Games. Voilà, il y a plein de projets qui n'étaient pas annoncés qui ont été annulés. Donc on ne sait pas exactement lesquels, mais voilà, ça a été un gros gros un gros clair dégoût de Sting. C'est vrai que Jim Ryan a un petit côté Sting. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un petit côté de Sting. Cette info est si vieille. Mais oui, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est que c'est là qu'on voit que ce monde va trop vite. Parce que moi, je suis parti en week-end ce week-end, donc, parce que Je suis parti au week-end jeudi dernier, non. Et du coup, le temps est complètement distendu. J'ai l'impression que la semaine dernière était il y a un mois. Donc j'ai l'impression que ça, là, je suis en train de vous parler de, l'incendie du Hindenburg, quoi. C'est vieux. Je suis désolé, ça fait vieux comme actu, mais c'est important parce que ça va nous amener à l'actu d'après, qui est liée et qui est plus récente. C'est correspond à l'actu qui dit comme quoi d'ici à 2025, on va s'ennuyer sur la PS5, la poubelle. Alors t'as pas tort, mais là c'est que le cas de la PlayStation, et je crois qu'en fait on en parlait, on en parlait une dernière fois, mais on en parle quasiment à chaque fois. On va de toute façon vers des années de jeux vidéo, autant vous prévenir tout de suite, hein, qui vont pas être très rigolotes. Parce qu'entre les projets annulés, les équipes qui ont été pétées et qui vont être compliquées à reconstruire, parce que créer un AAA, c'est quand même des projets avec un management très complexe, qui nécessite des équipes bien intégrées et tout, quand c'est des gens que vous avez embauchés en catastrophe pour combler les trous, enfin, ça va être une abomination, l'état de l'industrie du jeu vidéo pendant les années qui viennent. On va vers des années de vache maigre. Oui, tu reviens du week-end et là, 800 licenciements. Non, c'était avant que je parte en week-end. C'est ça exactement, Christophe. On vit à une vitesse, on prend plus le temps. Eh bien, il y a des gens qui, ils ne vivent pas une thèse, mais qui vivent avant la honte. Je vais vous montrer cette image, c'est toujours à propos de cette actualité. Ça, alors ça, vous l'avez vu forcément, parce que vous vous intéressez à l'actualité. Je sais très bien que tout ce que je dis là, dans ces émissions, vous le savez déjà, et que vous êtes là uniquement pour me faire plaisir. C'est un peu comme, vous savez, quand vous allez à l'EHPAD pour voir grand-père, et grand-père, il est là, « Je vous ai déjà raconté que pendant la guerre !» Vous êtes là, « Mais vous savez, mais oui, grand-père, on le sait, tu l'as déjà raconté. » Mais vous ne le dites pas, parce qu'en fait, vous êtes là pour tenir compagnie à une personne âgée. C'est pas pour ce que vous allez apprendre que vous venez. C'est parce que vous êtes là, bah, peut-être que bientôt il sera plus avec nous. Peut-être qu'il va s'étouffer ce soir en mangeant l'espèce de bouillie dégoûtante qu'on le sert avant qu'il se fasse frapper par une infirmière. Eh bien voilà, vous êtes là, vous êtes un peu mes animaux de confort émotionnel, quoi. Vous venez me voir. Alors, qu'est-ce qu'il va... C'est vieux son histoire sur Sony, hein, mais faut pas lui dire. Ça lui fait plaisir de nous raconter ça. Bah oui, bah on en est là. Hein. Donc... C'est ça, exactement. Ça va être dur pour les AAA qui ont des coûts énormes. On va en parler d'Afinga. Tu me fais ma transition. Mais avant qu'on parle des AAA, qui sont justement un cas très intéressant et qui permettent, parce qu'on sait que dans cette émission, on aime deux choses. Tenir compagnie à la personne âgée que je suis et prendre de la hauteur. Et deux choses assez incompatibles, parce qu'il faut généralement éviter de mettre les personnes âgées à une hauteur un peu... D'ailleurs, j'étais à Bruxelles là, en week-end, ce week-end. Et alors, ville incroyable, hein, c'est la ville supérieure, hein, y a pas photo. Et à un moment, on marchait dans la rue, et là, il y a un type qui sortait d'un bar avec son pote complètement bourré, jusque-là, normal, Bruxelles, et il l'a posé, mais oui, moi j'ai un pote complètement bourré, je me dis, je vais l'asseoir, je vais le mettre à un endroit stable où il ne tombera pas de très haut. Là, ils l'ont foutu juste à côté d'une sorte de terre-plein, avec un petit truc comme ça, en béton, quoi. Et forcément, est arrivé ce qui est arrivé, c'est que la personne qui était fin, bourrée, est tombée, et j'ai vu ça, j'ai fait « Oh !» Il est mort. Et en fait, non, ça va, il s'est relevé, mais il aurait pu se faire super mal. C'est inconscient. Donc voilà, personne âgée, personne instable, hauteur, mauvaise idée. Bref, on digresse. Donc, disais-je, hop. Donc, regardez ça. Regardez-moi ce petit coquin, là, avec sa tête de Sting. Eh ben, donc... Jim Ryan, il y a cinq jours avant que les gens du studio de PlayStation Londres se fassent tous virer, que le studio soit fermé, parce qu'il part à la retraite. Il part à la retraite bientôt, Jim Ryan, et donc il est allé faire un petit coucou aux gens du studio. Et regardez, ils ont fait une photo tous ensemble, genre « Ah, on t'aime trop, Jim, merci, bonne retraite, Jim !» Et le petit Jim, cinq jours après, il les virait tous. Et vous vous dites, putain, mais comment est-ce qu'on peut être un monstre à ce point? Et là, vous regardez la tête du mec, parce qu'eux, ils savent pas. Ils savent pas tous que dans 5 jours, ils vont se ravirer. Et là, vous voyez le mec, regardez sa tête. On va zoomer sur sa tête. Non, zoom. Ça va pas zoomer. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà. Non, ça va pas ouvrir. Putain, c'est tout pété. Ça a jamais marché, Twitch. Twitter, mais ça marche de moins en moins. Voilà. Regardez-moi cette tête-là. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est fascinant. Hein. Il sait. Il sait. Et on sait qui c'est quand on voit sa tête. Regardez, ça, c'est les mecs un peu genre... ouais, je sens que... Voilà. On dit, ah, il n'est pas à l'aise devant la caméra. Pas du tout. Il sait. C'est ça, c'est... un effet secondaire des stock-options. Oui, c'est comme le Botox, ça paralyse le visage quand vous avez trop de stock-options. Donc, il est un peu coincé. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même horrible, quoi. Ouais, ils sont tous là. Non. Et hop, tous ces gens-là, pouf, ils sont au chômage maintenant. Et lui, là, il part avec ses stock-options. Bref. Ce n'est pas un très bon monsieur, comme quoi, voilà, ce qu'il faut retenir, une chose, cette information, c'est qu'on peut ressembler à Sting et être quelqu'un de pas très gentil. Après, Sting, enfin, le mec est très sympathique, mais sa musique, elle est quand même... C'est un mec qui a une... Quand il parle de musique, c'est passionnant. Il était vraiment un mec qui a une grande compréhension de la musique, un grand théoricien et tout, vraiment une grande connaissance de l'histoire de la musique. Et puis, on dit, ah, qu'est-ce qu'il va nous jouer comme musique? Et là, vous êtes là, ah, j'ai jamais accroché à Sting. Bref, sur ce... Ouais, Police, c'est un des groupes les plus surcotés de l'histoire. Ah, je suis d'accord, Naiden, on a raison. Tu es un auditeur de Nutri-Score. Ah. Bon, alors bref, donc, grand moment de cynisme de Jim Ryan, grand chaos chez PlayStation, mais tout ça, ce n'est qu'un élément qui s'inscrit dans le grand chaos du jeu vidéo dont on a parlé un million de fois, on ne va pas revenir dessus. Même Yvan Godet fait ses papiers dessus maintenant, c'est vous dire. C'est vous dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est maintenant de se dire, de qui est-ce la faute? Est-ce que c'est la faute de la montée des taux? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Ou est-ce que ce ne serait pas la faute, et là, regardez cette transition incroyable, des triple A? Donc le monsieur Holly Welch de Polygon nous dit cette semaine, donc Final Fantasy VII Rebirth est sorti et y a eu des licenciements massifs chez Sony. Lui il dit c'est pas une coïncidence, il y a un lien entre ces deux événements. Alors la faute du capitalisme, mon ghost. Oui, certes, mais le problème, c'est que c'est dire ça, c'est de ne pas répondre, parce qu'il y a aussi des moments où, qui sont tout aussi capitalistes et où les studios ne virent pas en masse. Donc, ce n'est pas un élément explicatif. En tout cas, pour expliquer cette vague de licenciements-là. Donc, il pose la question de voir pourquoi... On va parler, cela dit, par contre, de choses qui sont vraiment liées au rapport, on va dire, entrepreneuriaux, vraiment aux logiques internes qu'il y a dans les entreprises, on en parlera après. Là, pour le coup, il y a presque une autre cause qui est plus due à la structure... Voilà, on a parlé de l'histoire des taux d'intérêt, on a parlé du fait que les marges, finalement, même des gros éditeurs, se cassent la gueule et que c'est un très gros problème. Mais il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, pourtant c'est quelque chose dont on parle régulièrement, et qui est un peu devenu une sorte de... Enfin, c'est même pas un marronnier, mais c'est devenu une sorte de cliché, quoi. C'est comme de dire que, oh là là, il n'y a plus de saison. C'est que les triple A, c'est pas tenable sur le long terme. Et là, il nous raconte que, voilà, alors c'est l'article est intéressant, parce qu'il nous explique que Final Fantasy VII Rebirth, c'est à la fois un jeu qui est, intéressant, parce que c'est à la fois un jeu qui reprend des éléments très narratifs, très scénaristiques, voilà, qui sont vraiment pensés pour du fanservice, pour les gens qui ont connu le précédent, mais qui en même temps, enfin qui ont connu l'original, mais qui en même temps mettent dedans beaucoup, alors j'y ai pas joué, hein, mais apparemment, parce que j'ai pas joué à un jeu sur PlayStation, mais qui apparemment ont quand même rajouté beaucoup de padding pour en faire un open world avec plein d'activités sur le côté, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le format de beaucoup, beaucoup de jeux aujourd'hui. Alors oui, Copa 2bis, mais ça, encore une fois, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est-à-dire que le fait que les budgets marketing soient gigantesques et dépassent parfois les coûts de développement, c'est pas nouveau. Et c'était déjà le cas. Ce qui est intéressant qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui a changé, en fait. Et peut-être que là, on a enfin atteint ce point. C'est une hypothèse parmi d'autres. Et la plus importante pour moi, ça reste quand même les questions de taux d'intérêt qui ont vraiment foutu la merde dans toute une fourmilière. Enfin, pour ne pas dire une pyramide de Ponzi qui était construite et relativement stable. Et en gros, il y avait de l'argent qui rentrait. Et quand l'argent finit de rentrer, ça s'est cassé la gueule. Mais cela dit, c'est vrai aussi que les retours sur investissement étaient faibles, en fait, et pas assez pour que ça puisse être maintenu si on n'a pas des injections de pognon qui font qu'en gros, c'est de l'argent gratuit. Et oui, Koub, exactement, ça c'est intéressant d'en parler avec le cinéma aussi. Ouais, ça c'est... ça on va en parler. Et donc voilà, il y a ce côté, tous les jeux vidéo sont un peu en train de... Enfin, il y a une sorte d'évolution, d'une direction unique qui fait que ça doit être au-delà du fait qu'il y a l'explosion des coûts, mais il y a l'explosion de jeux gigantesques, de jeux énormes, que les joueurs ne veulent pas forcément d'ailleurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un fait que les jeux doivent être énormes, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement vu comme une nécessité au niveau du marché, mais c'est aussi vu presque comme une question de prestige. Et ça, c'était, il en parle d'ailleurs, oui, c'est Phil Spencer qui en avait parlé, qui avait dit, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs ici, qui disait qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème que la taille des jeux, c'est quand même une sorte de grand concours de bits, mais le problème, c'est que si vous voulez être crédible en tant que gros éditeur et gros développeur, vous devez sortir des jeux monstrueux comme ça. Parce qu'ils se disent, si mon concurrent, il sort des jeux plus ramassés, plus, voilà, qui fonctionnent un petit peu, qui fonctionnent bien, mais qui n'ont pas une ampleur pareille, eh ben, mes jeux à côté vont, si moi, je sors ce genre de jeu et que lui, il sort des jeux gigantesques, mes jeux vont passer pour cheap à côté. Donc il y a des concours de bits, exactement, ce cartilage. Donc ça, c'est un tellement... c'est un très très gros problème, et c'est vrai que ça devient une forme qui, en plus, conduit les studios à leur perte. Alors, il y a un très bon exemple, c'était celui de... Voilà, il parle de Spider-Man. Alors, Spider-Man 2, qui était vraiment un jeu, il a coûté 315 millions à développer. Et le retour sur investissement espéré est de 35%. Alors que le Spider-Man précédent, enfin, le plus long Spider-Man, pardon, Spider-Man Miles Morales, qui était un jeu beaucoup moins grand, lui, il a eu un retour sur investissement de 122%. Ce qui montre que quand on se retrouve face à des jeux aussi gigantesques, finalement, les studios, les éditeurs n'arrêtent pas de dire « Ouais, mais vous comprenez, il faut qu'on vire des gens parce que on ne fait plus autant de marge qu'avant et on est arrivé à un moment où les marges deviennent vraiment critiques, ça devient compliqué. » Ce qui n'est pas faux, mais là où ils sont un peu responsables aussi, c'est qu'ils créent des jeux qui sont tellement chers que déjà, ils sont obligés de faire des jeux qui se ressemblent tous avec les mêmes types de mini-jeux, de trucs open world, etc. Parce qu'il faut plaire, c'est un peu comme Marvel pour le cinéma, hein. Il faut plaire au plus grand nombre de gens possible, parce que simplement, ça a des coûts tellement, énormes que vous avez besoin de milliers, de millions de clients si vous voulez espérer rentrer dans vos frais. Et puis en plus, ça pose de très gros problèmes, c'est que c'est des jeux qui sont extrêmement durs à rendre rentables, en fait. Et du coup, dès que vous avez une période un peu de vache maigre, quelle que soit la raison, vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre, à part on vire tout le monde, c'est la catastrophe, si vous voulez maintenir, continuer à rétribuer les actionnaires, ce qui est une autre question, que si jamais vous avez des jeux qui sont plus petits, et là vous dites, bon, c'est pas grave, même si on foire, on reste quand même bénéficiaire, quoi. Et ça, c'est un très très gros problème. Oui, alors cette photo, alors, je suis d'accord, Vatouane, cette photo est incroyable. Voilà, j'aime cette photo. Je vous enverrai l'article, comme ça vous pourrez l'enregistrer, en faire un fond d'écran, ou l'imprimer et l'accrocher au-dessus de votre bureau. C'est une très très belle image. Je propose qu'on fasse une pause dans toutes ces informations tragiques pour la regarder. Elle est vraiment très très bien. On voit le petit regard coquin, là, le petit clin d'œil. Alors que c'est chaud, hein, de faire un clin d'œil avec un masque. Hein. Donc voilà, c'est ou de faire du jeu service relou, tacuant. Mais tout ça, c'est des moyens. Alors on a parlé la dernière fois à propos de Raven Six Shield. Siege, c'est le game service peut aussi avoir des vertus, hein. Mais néanmoins, sa généralisation, c'est aussi un moyen de s'assurer de faire rentrer de l'argent parce que les choses coûtent trop cher, quoi. Ça coûte, oui, les collisions des pieds sont moins travaillées. Ouais. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Donc c'est c'est devenu un vrai problème. Et alors, est-ce que c'est à cause des AAA qu'on en est là? Non. Mais l'augmentation considérable du prix des jeux, merci Oscar Le Poulpe, et le fait que ce soit de plus en plus dur de rentrer dans ses coûts l'explique certainement en partie. Ouais. Pour arrêter de rincer les actionnaires, là aussi ça pose un autre problème, c'est que malgré tout vous avez besoin de capital qui rentre. Et si jamais vous arrêtez de rincer les actionnaires, imaginez, si vous êtes le seul à le faire, les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que j'investirais dans une entreprise où j'aurais aucun retour en dividende, alors que le studio d'à côté, qu'on appellera studio B, triple A, et action en pagaille, et dividende en pagaille, lui, il continuera à vous rincer. Donc vous allez investir dans ce studio-là et vous allez pénaliser. En fait, c'est une sorte de jeu où tout le monde est coincé. C'est une sorte de jeu et complètement où tout le monde est coincé. Et oui, en effet, Koub, l'alimentation en contenu d'un jeu service, c'est aussi un problème. C'est que là aussi, vous vous coincez un peu, quoi. Quand vous avez un jeu qui est très très cher, vous dites, OK, ce jeu, il faut que je mette tous mes œufs dedans. Donc, non seulement le développement coûte un pognon monstrueux, mais en plus, vous avez déjà quasiment bloqué une équipe pour continuer à créer du contenu sur ce jeu pendant des années après sa sortie, parce que vous voulez en faire la game as a service, parce que c'est aussi par la vente de DLC, de trucs cosmétiques et tout, que vous allez rentabiliser le machin. Donc, les durées de développement sont beaucoup de plus en plus longues. Vous faisait remarquer, là, je crois qu'on est passé autour de 5 ans. Voilà, dans 5 ans minimum et de plus en plus long pour faire les AAA. Et d'ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des studios qui justement... Non, ils leur disent, en fait, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est vrai. Naughty Dog n'a pas encore sorti un jeu original, en effet, sur la PlayStation 5, alors que la console est entrée dans la deuxième moitié de son cycle de vie. Donc, en fait, on se retrouve avec des jeux qui prennent très, très longtemps à développer. Et donc, ce qui aussi rend les gens très, très vulnérables, parce que vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œufs dans le même panier. Le jour où le panier se révèle percé, où il y a le moindre problème, vous êtes coincé et vous n'avez potentiellement rien sorti. Ce qu'on a vu avec tous les jeux non annoncés, hein, donc qui a priori était quand même, bon, il y a plein de paramètres et tout, mais bon, on va dire qu'ils n'étaient pas sur le point de sortir, qui ont simplement été annulés, qu'on ne verra jamais, parce que c'est des trucs qui étaient, ils ne pouvaient pas continuer à développer des trucs pendant aussi longtemps, ça coûtait trop cher, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de logique qui est, ça tiendrait qu'à moi, je dirais, que tout le monde joue à des jeux indés, ou des petits jeux mignons, et de toute façon, vous n'avez pas besoin de passer 60 heures devant le même jeu, c'est une chose qui est spirituellement mauvaise pour votre âme. dit le mec qui doit avoir 500 heures sur DCS. Mais oui, mais c'est vraiment un, non, c'est vraiment un problème, je trouve. C'est le temps que le jeu sorte sera en fin de vie de la console. Mais je pense que UK, sans caricaturer, on pourrait se retrouver, on va se retrouver d'ailleurs dans une situation où des studios passent l'essentiel du temps de vie d'une console à développer un jeu et le sortent au moment où la console est quasiment sur le point de donner de passer la main à sa successeuse, successrice. Bah, DCS, c'est déjà plus ou moins un game as a service, Ruben. Le business model de DCS, c'est free to play et on vous vend des DCS. On vous vend des DLC. La différence, c'est que les DLC coûtent 70 balles. Ce qui fait un... Bon, voilà. C'est un peu différent. Mais oui, donc, successeuse. Successeresse. Successeresse, c'est plus joli. Donc, voilà. C'est assez... oui, Naiden, mais c'est vrai qu'au-delà du fait d'aimer ou pas... moi je pense qu'il y a un vrai problème avec les open world. Je pense qu'il y a certains mécanismes qui sont vraiment des mécanismes de padding. D'ailleurs ils en parlent à propos de Final Fantasy VII, enfin Rebirth, que ouais, il y a des jeux aujourd'hui, c'est pas le fait qu'un jeu soit long ou court, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a des jeux qui sont artificiellement rallongés parce qu'il faut qu'ils soient gros, et ça on l'a tous vu dans les AAA, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Un AAA ou avec plein de petits contenus comme ça qui crée du volume et qui sait rester intéressant, il n'y en a pas tant que ça. Ça demande beaucoup de talent et de travail en design pour les mini-jeux, pour le contenu. Pour... C'est compliqué. Donc, toujours ce masculin, même pour désigner une femme. Oui, mais successeresse, c'est plus joli, Glavio. Et ici, tout est basé uniquement sur l'esthétique. Couper la camelote à la flotte pour la rallonger, c'est pas un gage de qualité. Oui, ce qu'il faudrait dans le jeu vidéo, c'est de la shrinkflation. C'est shrinkflation. Voilà, je vais vous expliquer comment sauver l'industrie du jeu vidéo. Il faut faire comme pour les paquets de chips. Vous achetez un jeu vidéo, on vous dit, il y a 60 heures de contenu, vous êtes là. Cool. Vous jouez, et au bout de 40 heures, bah, il n'y a plus rien. Ça fait pouf, il y a de l'air. Et des petites miettes comme ça qui traînent dans le fond. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bien voilà. Avec ça, on arrivera à avoir des développeurs qui seront mieux, des jeux qui coûteront moins cher. Et puis, est-ce qu'on a besoin de manger des paquets de chips remplis à fond? On est bien assez gros, si vous voulez mon avis. Donc, c'est un... Succès tâteuse, c'est pas mal, mais c'est un peu violent, quand même, niveau syllabe. Je parle de Diablo. On va en parler de Diablo, d'ailleurs. Enfin, vous allez en parler, parce que j'ai une actu sur Diablo, mais comme j'ai pas joué à Diablo depuis longtemps, je sais pas ce qu'elle vaut. Bref, voilà, donc ça, c'était intéressant. Tiens, en bonus... On va faire comme ça, maintenant, il y aura du bonus. Je vais vous poster aussi cet article. J'ai déjà vous posté cet article-là. Comme ça, vous pourrez télécharger l'image de Spider-Man. C'est un article intéressant. Je vous conseille de le lire. Mais j'ai faim aussi, Papy Poulet. C'est pour ça que je parle que de bouffe depuis tout à l'heure. Et ça aussi. Hop. Oui, c'est ça. Ça, c'était un article sur les profits de PlayStation. Pourquoi est-ce qu'ils sont bas, etc. C'est plus de l'analyse, machin, en détail. On n'a pas trop le temps parce qu'il y a pas mal d'actu. Si vous voulez regarder les chiffres, vous pouvez regarder celui-là. Voilà, je vous le mets en cadeau, bonus. Bon. On continue avec les mauvaises nouvelles. Je vous avais prévenu, c'est un truc qui démarre mal. Voilà, c'est un peu moins important, donc on va passer en B. Voilà. Alors bon, le problème, c'est que c'est un article de Maestro. Grand respect pour Maestro, qui en plus travaille chez Insider Gaming, donc le mec, il est au courant des bails. Je trouve que ça reprend un peu quand même des choses qu'on avait déjà beaucoup dites ici, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ça, maintenant, faire une émission où on parle de l'actualité de jeux vidéo. Ça consiste à dire des trucs tristes en boucle. Donc, alors oui, pour la question de la pub, alors, parce que je veux qu'il y ait un débat sur la pub dans le retour de la pub communication, pas de com, tu vends pas beaucoup de com, tu sors pas financièrement. Alors c'est un problème par rapport à la pub, mais néanmoins c'est un peu la question du marketing et de la pub en général. C'est qu'on a tendance, quand on voit les budgets de pub, et pas uniquement dans le jeu vidéo, hein, je veux dire en général, les budgets publicitaires, marketing, c'est énorme. Et on se dit, mais pourquoi ils brûlent tant de pognon, c'est stupide, voilà. Si ça ne rapportait pas au final, ils ne le feraient pas. C'est vraiment parce que je pense que le biais que les gens ont là-dessus, je dis pas qu'il n'y a pas des budgets pubs qui sont démesurés et absurdes parfois, hein, et qui peuvent se révéler être un goût des gouffres à pognon. Mais de façon générale, je pense que ça vient d'un biais qu'on a, c'est qu'on se dit toujours, le marketing, la pub, ça marche pas, sous-entendu, ça marche pas sur moi. Donc ça sert à rien, donc c'est de l'argent foutu en l'air, et c'est à cause de ça que les... Et bah, pas que le jeu vidéo, hein, c'est pareil pour la lessive, hein, que les gens ils perdent de l'argent, mais du pognon là-dedans. Non, non, croyez bien que depuis 50 ans, 40, 50 ans, qu'on a de la publicité de masse, enfin, il y a toujours beaucoup de publicité, mais vraiment la publicité au sens agence de pub avec créatif cocaïné, si jamais c'était pas rentable, ça serait arrêté depuis très longtemps. Il y a quand même une capacité, les marchés font n'importe quoi, mais ils font pas n'importe quoi de la même façon pendant 50 ans. Ils trouvent de nouvelles façons de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils passent des NFT au métaverse, etc. Mais voilà, non, si vraiment c'était pas rentable, ça devrait pas continuer aussi longtemps. Donc, voilà, concernant voilà, Insider Gaming, donc en fait, c'est un truc dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, de plus en plus, alors c'est vrai de l'industrie du jeu vidéo, mais là, c'est encore une fois, c'est plus général. Il y a un grand mouvement du genre, voilà, qui dit en gros aux gens, revenez au bureau, le télétravail, c'est terminé, la pandémie, c'est derrière nous, aussi, mais bon, c'est une autre question, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, en gros, voilà, l'idée, c'est de dire que tout ce qui avait été gagné un peu en termes de télétravail, ou en tout cas de droit au télétravail, au cours des dernières années, est en train de partir en sucette. Bah ça confirme un peu ce qu'on avait dit, et donc cet article est intéressant parce qu'il montre que c'est vraiment une question de contrôle. Bon, encore une fois, si vous suivez cette émission, vous n'apprendrez rien, mais c'est aussi la mauvaise gestion avec très peu de vision à long terme. Oui, c'est vrai, mais cette mauvaise vision à long terme, elle est due au fait qu'il est aussi difficile d'avoir une vision à long terme quand on se lance dans des projets gargantuesques et qu'on se dit... Et là, pour le coup, c'est vrai que les exécutifs voient vraiment comme de la chair à saucisse pour générer les plus grosses marges possibles et faire le plus grand nombre de ventes possibles. C'est vrai. Mais ils sont coincés, quoi. Donc, voilà. La pandémie, oui, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a quelque part sur Terre un dev ou une dev de... petit jeu indé type animal, enfin petit jeu de façon un peu Animal Crossing, un truc très mignon, etc. Et qui l'a comme ça sur son disque dur, qui ne le sort pas et qui se dit j'attends la prochaine pandémie. La prochaine fois que les gens, ou la guerre nucléaire, j'en sais rien. Mais quand il va arriver un truc qui fera que les gens voient à nouveau être calfeutré chez eux, je vais le sortir et je vais faire plein de sous. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne comme ça quelque part sur Terre. Si vous êtes émission, vous n'apprendrez rien. Oui, mais ça, c'est. C'est la publicité un peu à la Harakiri, vous savez, ça marche, parce que vous savez que c'est pas vrai, que vous apprenez des choses dans cette émission. Par exemple, vous avez appris qu'un type a failli se casser la gueule dans une fontaine en Belgique, enfin, se tuer dans une fontaine en Belgique le week-end dernier. Vous ne l'auriez pas su sans cette émission. Oui, voilà, les gros triple A, c'est comme les NFT, il fallait le faire parce que les autres l'ont fait, que tu peux laisser l'espace libre dans la jungle. Exactement. En fait, le problème, c'est que, et ça, je pense que c'est vrai, plus les marges sont faibles, plus, et les coûts sont élevés, plus les paris sont gros, plus les gens sont... Bon, après, il y a aussi une part de névrose généralisée dans le fait que les gens veulent faire dégager des marges à court terme, etc. Et c'est... Cette société est malade, je vous le dis. Mais au-delà de ça, plus vous êtes dans une situation en tension comme ça, plus les gens sont en panique et se disent « Faut pas que je rate ce coup-là ». Donc, ils investissent dans tous les trucs qui paraissent débiles pour peu que vous ayez un peu de recul. Parce que c'est facile. Moi, quand j'ai vu le Metaverse, quand j'ai vu les NFT, comme vous, je me suis dit « Mais ça marchera jamais ». Et ça n'a pas marché. Et vous dites, mais comment ça se fait que des gens qui, a priori, sont quand même des spécialistes, leur métier, c'est quand même de trouver des trucs qui vont faire du pognon, ne l'ont pas vu, alors que tout un chacun l'a vu. Il y a le côté bulle qui fait que les gens parlent entre eux, et non, voilà, c'est un peu comme la Silicon Valley, où vous avez une sorte de bande de tarés qui sont construits quasiment une sorte de réalité alternative. Mais il y a aussi simplement le fait que quand il y a beaucoup d'argent en jeu, moi, si je dis, les NFT, ça ne marchera jamais, il se trouve qu'ils marchent. Ouais, au pire, je sais pas, j'aurais dû investir 1000 balles dedans, quoi. Quand vous avez des millions potentiellement à investir dedans qui peuvent faire de votre boîte quelque chose de gigantesque et en faire le premier acteur sur la technologie de demain, vous pouvez pas penser rationnellement, en fait. Vous êtes obligé de devenir dingue. Et ça explique aussi en partie hein, pourquoi les gens prennent des... Pas uniquement, mais aussi en partie pourquoi les gens prennent des décisions qui, quand vous les regardez de l'extérieur, vous semblent complètement débiles, quoi. C'est un truc assez terrible. Bref. Bon, donc voilà, ça pour dire, c'est une vraie question de contrôle dans le jeu, dans tous les, bah, dans toutes les industries, hein, sur le fait de le retour au travail, enfin le retour au bureau, mais dans le jeu vidéo, c'est un petit peu, c'est plus tragique qu'ailleurs, parce qu'il y a ce côté, en plus, que ça pousse souvent des gens à se déplacer. On avait vu le cas, hein, notamment les dernières fois, que des gens s'étaient retrouvés à devoir déménager avec toute leur famille pour se rapprocher d'un studio, parce que c'était la fin du télétravail, et en arrivant là-bas, genre 3 semaines après, ils étaient virés parce que c'était 2023, et donc voilà, c'est une sorte de catastrophe, et c'est une catastrophe encore pire, parce que non seulement Il y a ce côté contrôle des corps et des âmes et du temps des gens qui est de petit manager tortionnaire. Mais en plus, il y a aussi ce côté, un côté propre aux jeux vidéo, c'est que c'est une industrie qui déjà traite les gens comme de la merde, encore plus que la moyenne. Et puis surtout, est une industrie où il y a une instabilité de l'emploi extrêmement forte, surtout ces temps-ci. Et si on vous dit, où tu te barres, où tu viens, tu viens. Mais si jamais c'est pour être viré un mois après, t'as vraiment doublement tout perdu, quoi. Donc c'est assez abominable. Sans parler du cas des gens pour les visas de travail et tout, mais ça c'est vrai aussi ailleurs, notamment aux États-Unis où c'est assez fréquent. Donc voilà, il y a une question de contrôle là-dedans qui est très très intéressante, notamment aussi pour la question du contrôle des corps, au-delà du fait que, évident, du côté disciplinaire de contrôler ses employés en les ayant tous sous les yeux et en vérifiant les heures où ils partent, il y a aussi le côté, notamment pour les gens handicapés, pour qui ou qu'on n'importe quel problème, d'ailleurs, que ce soit des gens agoraphobes ou des gens paraplégiques, ça change rien. En tout cas, il y a beaucoup de gens pour qui le télétravail, ça a permis d'accéder à un confort de vie qu'ils n'avaient pas avant. Regardez Agbou, il n'a plus besoin de venir à la rédac, il est tellement heureux. Donc pour ces gens-là, ça a été doublement difficile, parce qu'on leur demandait en plus de s'exposer potentiellement à la pandémie, quoi. Donc je vous mets cet article qui est vraiment intéressant, vous pourrez le lire. Mais encore une fois, ça ne rend pas... ça ne vous apprendrait pas là non plus grand chose de nouveau, parce que ça fait que rejoindre un peu ce qu'on avait dit par le passé. Bon, ah oui, ça faut le mettre, ça c'est incroyable. Ça. Mais le problème c'est que ça, j'ai envie de passer une heure dessus tellement c'est drôle. Alors, vous vous dites aujourd'hui, on parlait des différentes ères du bullshit. Vous dites aujourd'hui, on est dans le. On a atteint un stade du jeu vidéo, un stade où beaucoup de conneries quand même ont été dépassées. Maintenant, on est dans l'IA à fond la caisse, mais au moins l'avantage, c'est que le métavers, plus personne n'y croit, les NFT, plus personne n'y croit, ça au moins, c'est derrière nous. Bon. Détrompez-vous. Incroyable. Il y a. Je vais mettre un Nutri-Score A parce que c'est trop beau. A comme admirable. Il y a un... Alors, c'est... comment ils s'appellent, les mecs qui font ça? J'avais noté. C'est Yuga Labs, voilà. Yuga Labs, les mecs qui ont fait les Bored Apes. Alors, Bored Apes, si vous n'avez pas suivi, chanceux que vous êtes, c'était des singes dégueulasses que les gens s'échangeaient, qu'ils achetaient des milliers de dollars et qui, maintenant, en valent 3. 3 dollars, hein, pas 3 milliers. Et donc, ils ont fait un MMO / métavers qui se joue dans un browser... Alors, tout le monde peut y jouer, enfin, c'est en bêta, alors je ne sais pas si c'est une bêta ouverte ou fermée, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de NFT pour y jouer, attention. Donc, vous pouvez y jouer si vous voulez, et vous allez voir des images du jeu, on va les regarder ensemble. Non, j'ai pas envie que mon employeur me verse quoi que ce soit. Mais non, mais pourquoi j'ai cette dame? Mais non, mais je m'en moque, madame. Ça, c'est parce qu'elle entend que je parle d'analyse, alors du coup, elle... On va regarder de la pub. Parce qu'on en parlait, la pub, c'est important. En une semaine seulement, hein. Franchement, ah bah oui, c'est ce que je mets. Ça y est, sans présenter, je me suis mis au rétinol, et c'est vachement bien. Bref, où est-ce que j'en étais? La vidéo va commencer. Mais oui, mais moi, j'ai pas ça que je veux voir. Mais je veux pas voir des cheveux, je veux voir des singes, voilà. Donc, voilà le jeu, vous allez voir le jeu. Je vais vous montrer les images du jeu. Si vous n'avez pas immédiatement envie de tout arrêter pour y jouer, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même du bon gameplay, les collisions sont tip-top. Visuellement, je crois qu'on aurait fait un carton en 2003. Alors, là, vous voyez, regardez comme c'est... Hop là, regardez, on glisse sur des rampes. Je ne sais pas trop ce qu'on y fait. Voilà, c'est le jeu. C'est... Queen of Crypto est tombé dans le vide. Pauvre Queen of Crypto. Alors regardez, les collisions sont pétées, on tombe très facilement dans le vide. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire à part glisser sur des rampes et marcher sur des îles qui flottent. Alors, ça rame de ouf. Alors, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais il y a un problème d'encodage dans leur truc. Et en fait, j'ai regardé, non, c'est que le jeu rame de ouf, en fait. En même temps que vous voyez ce qu'il affiche, vous comprenez. Hein. Donc voilà, regardez, c'est complètement pété. Alors, plusieurs fois, la personne qui joue tombe dans le vide, mais apparemment, vous n'avez même pas un double saut, vous avez genre un saut infini. Donc vous pouvez continuer à sauter dans le vide pour remonter. Je pense que c'est la seule solution que les développeurs ont trouvée pour que tout le monde finisse pas dans les précipices. C'est développé donc par... Yuga Labs, alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ça a l'air vachement bien, j'ai trop envie d'y jouer. Il y a par contre un truc qui me dérange, c'est que tous les gens ont la même skin. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est des plébéiens. C'est des gens qui n'ont pas acheter leur petit NFT de singe. Parce que si vous avez votre NFT, d'ailleurs, on en voit passer quelques-uns, t'en as regardé. Si vous avez, alors, on peut prendre des photos, hein, ce serait un truc pareil, c'est normal, on a envie de les montrer comme ça, ils pourront mettre, montrer à leurs petits-enfants. Regarde, regarde ce que je faisais quand j'étais jeune, papa, il était dans le monde des singes. Alors, on peut faire des selfies. Les gens passent beaucoup de temps à faire des selfies, vous allez voir, là, on va peut-être en voir un. Il y a toute une mécanique qu'on peut faire, voilà, on peut prendre des photos, on peut faire des selfies, on peut twerker en faisant des selfies aussi. Donc c'est quand même pas mal comme gameplay. Par contre, on ne peut pas parler. Alors ça, ça a fait un peu... Les gens ont été un peu critiqués. On ne peut pas parler parce qu'ils ont dit... En fait, même les premiers proto-MMO de 1995 permettaient d'avoir un chat textuel. Là, il n'y en a pas. Là, vous ne pouvez pas parler. Ce que vous pouvez faire, c'est marcher, twerker et prendre des selfies de votre cul en disant... Oui! Donc, oui, il y a la question, pourquoi est-ce qu'ils ont tous la même skin? Parce que pour pouvoir avoir une skin... Il faut... Ouais, mais c'était une bêta, donc il y a plein de monde, l'ergonome. Après, c'est peut-être les développeurs, hein, je sais pas. On en voit là, je crois. Donc, si vous avez un singe, vous pouvez avoir la skin de votre singe dans le jeu. Donc, en fait, c'est un truc qui amène amener les gens, les propriétaires de NFT, à enfin avoir un endroit où ils pourront... Regardez tous ces gens-là qui n'ont pas de skin. Putain, ça rame de ouf, mais sans deck, c'est incroyable. Et le monde a l'air uniquement fait... C'est pareil du début à la fin. Voilà, ils ont leur VR chat pour leur pratique onaniste. Je devrais le streamer. J'ai peur que ça soit vite lassant, Dafinga. Alors, je sais pas si c'est une bêta ouverte ou fermée aussi, par ailleurs. Mais regardez, donc voilà, on voit pas de singes. Si, là, il y a des gens qui ont des skins. Donc ça doit être des... je crois qu'on a vu passer tout à l'heure, je sais plus où c'était. Ah, c'était un peu après Queen of Crypto. Je crois qu'on a vu passer un singe tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez un singe, vous pouvez enfin trouver une utilité à votre Bored Ape. Vous pouvez donc jouer, avoir sa skin dans le jeu. Voilà, donc c'est l'intérêt. Mais alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que non seulement vous pouvez avoir... Alors quand même, ce serait dommage de ne pas pouvoir avoir cette skin. Mais en plus, ça vous donne accès, si vous avez une skin Bored Ape, à un club select, qui est en fait une sorte de discothèque qui se trouve dans cette espèce de monde psychédélique avec des sortes d'îles flottantes, là. Et donc vous pouvez... accéder à cette zone à laquelle les joueurs normaux qui n'ont pas acheté une skin de NFT, enfin une skin de singe, peuvent pas accéder. Voilà. Donc là, par exemple, il y a des gens qui ont des skins de singe qui ont payé 70 000 $, qui leur permettent d'accéder à ça. Alors, ce que je trouve absolument fascinant, c'est que c'est un monde virtuel. Donc, tout est possible. Ils auraient pu faire un truc incroyable, genre le palais des singes avec des architectures invraisemblables. Ils ont choisi un club. Mais genre, tu vois la gueule des toilettes, tu sens l'odeur du vomi, quoi. Ils ont fait un truc dégueulasse dont on voudrait pas dans une usine désaffectée de Berlin, quoi. C'est tout tagué, crado, des singes qui turquent dans les chiottes avec les portes qui ferment pas, enfin. C'est super glauque. C'est absolument abominable. Et voilà. Donc, ça fait underground. C'est ça, exactement, Corélissan, ça fait underground. Et il y a rien qui est plus underground que de claquer 70 000 balles dans une skin de singe. Donc voilà, et c'est, alors le pire c'est que, voilà, apparemment, ils ont des Yuga, en mai 2022, Yuga avait prévendu pour 300 millions, parce que c'est un peu comme Second Life, on peut acheter du territoire apparemment dedans, ils ont acheté, déjà vendu pour 300 millions de territoire, quoi, enfin de terrain, dans ce monde, voilà. Donc voilà, c'est voilà le jeu. Donc voilà, si vous avez, écoutez, voilà, si vous voulez y jouer. Donc le jeu s'appelle comment? Le jeu s'appelle Otherside, voilà. Otherside. Et donc voilà, il y avait un playtest le 29 février. Donc c'est pour ça qu'il y avait plein de gens. C'est comme c'était ouvert une seule journée, je pense que tout le monde s'y est connecté. Peut-être aussi pour ça que ça ramait. C'est invraisemblable. Ils ont vendu pour 300 millions de pré-vendu, donc le truc n'est même pas sorti, hein. Il y a eu 3 journées de playtest apparemment, la dernière c'était le 29 là. Et voilà, vous pouvez faire des selfies avec votre avatar moche là. Ah regardez, ça c'est des vrais singes, c'est pas des vrais singes, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il s'appelle Arthoscope et Western TW, et voilà, écoutez, c'est voilà. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi ajouter, je crois que je vais vous poster l'article, comme ça vous pourrez lire ça, parce que je pense qu'il n'y a rien à ajouter en fait. Ils vont fermer les serveurs au bout de 18 mois, quand ils seront goinfrés de fric, Ah ouais, c'est clair, imaginez. Le problème c'est que je peux pas m'empêcher de dire, ce truc-là va finir par un procès massif où tout le monde va attaquer tout le monde pour escroquerie. Mais en même temps, comme vous voyez, il y a quand même la capacité de... Enfin, moi, j'aurais claqué 70 000 balles dans un singe, un faux singe, et on me dirait... Un vrai singe, ce serait cool. Même si les chimpanzés, ils mangent le visage des gens. Il ne faut pas en avoir un chez vous. Mais, bah, ou alors un singe cool, genre un capucin. Je serais content. Mais un faux singe comme ça, vous dites, bon, voilà, est-ce que tu as encore besoin de t'humilier en allant twerker dans les toilettes sales, quoi ? Je sais pas. C'est tellement un monde différent du mien que je... non, mais je plaisante 70 000 euros. C'est qu'il y a des skins, quoi, des vendus de 70 000 euros. Évidemment, vous pouvez en trouver un de moins cher. Un singe d'occasion, ça va chercher dans quoi ? Ça coûte que dalle aujourd'hui. Mais bon, c'est... je sais pas. Voilà, c'est pour ça qu'il soit à 70 000 dollars. C'est qu'il y a un mec qui a dit... voilà ce que c'est claquer 75 000 dollars dans ce NFT m'a donné. Enfin, voilà ce que ça m'a rapporté. L'accès à cet endroit, voilà. C'est ça, voilà. Donc il y a une personne qui a claqué 75 000 dollars pour ça. Eh bien, on lui souhaite bien du bonheur. Et on lui souhaite de trouver la paix et la satisfaction de l'âme. Voilà. Bon, allez, hop, on continue. Donc, on parlait la dernière fois des jeux qui disparaissent des stores. Vous savez, on avait parlé à propos de Spec Ops. Bon, on continue à en parler. Tiens, allons-y. Hop, Nutri-Score C, c'est bon, foufou, ça. J'aime bien cette image avec la dame qui fait... Eh ben, c'est absolument fou du début à la fin. C'est clairement des gens qui sont dans un monde totalement différent du nôtre. Oui, c'est un monde complètement différent. Il y a eu des reports... Mais de toute façon, la Silicon Valley, en général, c'est un monde complètement dingue. Enfin... il y a eu des reportages qui ont été faits sur les clubs Bored Ape et tout ça, là où les mecs se retrouvent. En gros, c'est des clubs où vous pouvez rentrer que si vous avez un singe. Et c'est vraiment une sorte de jet set qui déjà, en soi, la jet set, c'est glauque. Mais là, encore pire, quoi. C'est vraiment... Parce que la jet set passait, au moins... Bon, il y avait beaucoup de nouveaux riches débiles, mais il y avait au moins le côté, on va quand même côtoyer des créateurs, des grands, des gens qui ont fait quelque chose, quoi. Là, c'était... c'est vraiment c'est une sorte d'aboutissement de la spéculation, quoi. Et c'est assez terrifiant, mais de façon générale, c'est des gens qui ont un rapport au monde complètement décalé. Ben là, dans la dernière longue forme du pavé numérique, donc, qui est paru lundi dernier, il y a une semaine, il parlait notamment des influenceurs et influenceuses de la Silicon Valley comme Aella, qui font des statistiques sur le sexe, etc. Et c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est le libertarianisme poussé à des niveaux absolument extrêmes. Et pas uniquement dans le côté hippie, tout le monde baise avec tout le monde, etc., ça, pourquoi pas, mais c'est un rapport à l'humanité qui est quand même absolument terrifiant. Mais passons. Donc c'est vraiment, je vous encourage à lire ce... Je dis pas ça uniquement parce que le pavé numérique est une bonne publication, mais c'est assez fascinant. Je vous encourage aussi à voir les dernières publications d'Aella sur son compte Twitter, mais éloignez les enfants avant, mais c'est fascinant. Et vous dites, ces gens-là sont littéralement... Je ne vais pas vous expliquer ce qu'elle a fait parce qu'on est sur Twitch et c'est une chaîne grand public, mais c'est incroyable. Enfin, l'idée, ça fait d'avoir l'idée de faire ça est dingue. Bref. Donc, c'est... donc, voilà, c'est... Donc, oui, il y a 7 jeux Electronic Arts qui ont... maintenant, tu es curieux, Choco Purée. Bon, allez, je le dis très vite. Elle a organisé un gangbang et elle a fait tout un tas de stats, mais genre... Je suis autiste et j'ai un tableau Excel sur ce qui s'est passé. Voilà. Ces gens sont cinglés avec des gens qui prenaient des notes sur le côté pour être sûr que les stats soient justes. C'est vraiment la mimique à la Agbou, c'est genre... Et en même temps, c'est tellement représentatif du fonctionnement. Quand vous lisez des trucs sur ces... sur justement les clubs Bored Apes et tout, alors c'est pas au niveau du sexe, mais au niveau vraiment d'une sorte de... Vraiment de libertarianisme poussé à l'extrême, avec un rapport extrêmement... vraiment des mouvements rationalistes dans l'optimisation de l'argent et l'optimisation de l'existence, avec un côté extrêmement... On va optimiser... Enfin, c'est une forme de névrose très particulière. Vous voyez vraiment que c'est un groupe de gens qui s'est structuré comme ça, et qui ils se fréquentent entre eux, ils se parlent entre eux, donc ça crée une sorte de enfin, ça crée vraiment des... C'est comme tous les groupes, d'ailleurs, tous les groupes humains hein, développent des comportements bizarres, parce qu'ils sont entre eux, c'est vrai, dans tous les groupes politiques, militants, civils... Toute civilisation est un gros groupement de gens qui font les mêmes choses bizarres ensemble. Mais là, ça atteint un niveau quand même où c'est assez fascinant. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit californien, et là, il y aura vraiment un truc à faire là-dessus, mais ça a déjà été écrit, hein, c'est de voir à quel point, sur bien des points, c'est un peu les descendants des hippies, en fait. C'est une sorte de perversion capitaliste des hippies. Parce qu'il y a vraiment ce côté grande liberté individuelle, etc. Mais... avec un twist qui fait qu'au lieu d'être quelque chose qui est extrêmement libérateur, c'est complètement dingue, quoi. Et extrêmement centré sur le pognon aussi. Donc c'est très très étrange. Et c'est pas étonnant que ça se passe au même endroit géographique. Merci Black Magic et Mal d'automne. Donc bref, on parlait des jeux qui ont disparu. Donc les jeux qui ont disparu, notamment le catalogue d'EA, il y en a pas mal dernièrement, et notamment pas mal de jeux de F1. Et pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Enfin, ils vont être retirés des stores. Alors au moins on peut reconnaître à EA un truc qui est bien. Un truc qui est bien, c'est comme ça qu'on parle, on n'a plus rien à faire, il est tard, on n'articule plus. C'est comment ils annoncent à l'avance. Ils annoncent à l'avance, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, pour quand Spec Ops a disparu des stores, il a disparu du jour au lendemain sans mise en garde. Mais là, c'est vraiment un truc, voilà, là, ils sont au moins honnêtes. Mais cela dit, voilà, beaucoup de jeux ont été touchés, et dans le tas, il y a énormément de jeux de sport. Pourquoi? Eh bien, évidemment, pour des questions de licence. Toujours la même chose. Oui, ils ont annulé Kim Kardashian Hollywood. Ils ont annulé aussi Rocket Arena, qui apparemment était une sorte de truc à la Quake, une sorte de Quake Live. Ça me dit rien du tout, mais j'ai dû le voir passer, je l'ai complètement oublié, c'est-à-dire si ça a marqué les gens. Et oui, Naiden, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est que, en fait, c'est des jeux. Enfin, ils sont quand même. Quand on parle Electronic Arts, on pense Battlefield, on pense. En fait, il y a toute une partie du catalogue qui est une sorte de. Le dark catalogue d'Electronic Arts. Et c'est plein de petits jeux comme ça qui rentrent, qui sortent. Et. Voilà, tous les. Qui, en fait, sont un peu des jeux de niche et dont. Qui sont quand même pas des jeux très intéressants, quoi. Madden, c'est chaud, ouais. Donc, c'est intéressant. C'est. Oui, Longos, c'était un truc qui sera. Mais c'est pour ça que c'est vachement intéressant. C'est qu'il y a vraiment un truc très, très intéressant sur la question des hippies, du mouvement hippie en particulier, et de ses continuations dans le temps. Et c'est vraiment, vraiment passionnant, ça, de voir, notamment quand on s'intéresse à la Silicon Valley et à ses particularités. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, sachez que si vous êtes un grand fan de F1, ben vous serez bien marié d'apprendre que voilà, il y a des. Bon, après, ils commencent quand même à être assez vieux, hein. Mais il y a pas mal de jeux qui sont virés. Donc, pour ça, reprend un peu ce qu'on disait l'autre fois, c'est que voilà, si vous avez un jeu qui vous fait envie, et que c'est un jeu avec, par exemple, de la musique ou des véhicules ou quoi que ce soit sous licence, ne traînez pas trop pour l'acheter. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Merci Urkill, parce que voilà, il peut être supprimé. On ne sait jamais, en fait, comme ces choses-là sont rarement annoncées publiquement, on ne sait pas pour combien de temps les licences ont été octroyées, et ça peut disparaître à tout moment. Voilà, c'était le moment où je vous angoissais énormément. Tiens, on va parler aussi de choses intéressantes du point de vue du droit. C'est Nintendo, ça vous l'avez sans doute vu passer aussi. Hein. B. Nintendo qui joue à des jeux de course il y a 10 ans. Eh bien moi, Rabbitman, dès que j'ai un peu de temps perdu, je me fais, je vais me faire un petit rallye course 2006. C'est ma grande passion. Donc, voilà, les hippies sont à la base des GNU et des GAFAM. Oui, à la Zred, c'est passionnant. C'est vraiment ce côté, il y a vraiment les deux aspects et qui ne sont pas complètement incompatibles parce qu'on peut trouver entre même les plus bienveillants et gauchisants des libristes et les libertariens des passerelles. En fait, c'est pas pour dire que les deux se valent, hein, ou sont équivalents, ou pensent la même chose. Mais ça part d'un substrat commun qui part de là, en fait. Et c'est vachement intéressant. C'est toujours rigolo de voir comment les idées se construisent. Bref, donc voilà, Nintendo poursuit le développement. Alors ça, vous l'avez peut-être vu. Vous connaissez peut-être Yuzu, qui est. Ou je sais pas s'il faut dire Yuzu ou Yuzu, qui est un émulateur Switch assez connu, et Nintendo va poursuivre les développeurs de l'émulateur en incluant un piratage, une échelle colossale. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà parce qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, donc pourquoi maintenant, alors que ça fait quand même un moment que Yuzu est connu par les gens qui s'intéressent à l'émulation. Mais là où c'est intéressant surtout, c'est que sur quelle base juridique? Parce que en fait, l'émulation, en théorie, c'est légal. Vous avez le droit d'émuler n'importe quelle console, n'importe quelle machine, etc. Reste à voir les conditions dans lesquelles l'émulation a eu lieu. Si par exemple vous avez reverse engineeré du code propriétaire, machin, ça peut poser des problèmes. Mais sur le principe, c'est légal. Le principe en soi de l'émulation n'est pas illégal. Mais là, l'argumentaire de Nintendo, que j'ai trouvé intéressant, je ne dis pas qu'il est valable, hein, je pense que c'est juste pour faire peur, mais il est intéressant, c'est de dire, en fait, ça encourage le piratage. Et c'est vrai qu'il y a sûrement des gens qui vont pirater un jeu Switch qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils avaient eu une Switch et qu'ils n'avaient pas joué sur... Déjà parce que tu ne vas pas acheter une cartouche Switch pour ensuite la transposer, c'est plus simple de télécharger une ROM, en fait. Et donc, ça encourage, c'est vrai, c'est dur de nier que le fait, si vous n'avez pas de Switch chez vous, vous avez uniquement un émulateur Switch, ça encourage le piratage. C'est pas faux. Donc, c'est, et là, pour le coup, le piratage des jeux, sauf si vous êtes déjà détenteur d'une copie, il est illégal. Donc, le fait que ce soit pas un logiciel illégal, mais que ce soit un logiciel qui encourage le piratage de logiciels, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Les couteaux, ça encourage les meurtres. Bah oui, derrière, mais ça, c'est un argument intéressant. Hein. C'est parce que là, tu dis ça pour les couteaux, mais c'est un peu l'argument que les Européens ont sur le port d'armes aux États-Unis, par exemple. Donc, non, c'est vraiment très intéressant. Dire, c'est évident que c'est vrai. C'est évident que c'est vrai. Mais en même temps, de fait, c'est pas illégal. Donc, c'est intéressant. Et alors, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que Yuzu... Alors, moi, je me disais, on en parlait à propos de Palworld, hein, de dire, quand Monsieur Nintendo vous attaque, si jamais, parce qu'on parlait à l'époque où il y avait les fameux « Est-ce que Palworld a volé des designs de Pokémon ?» Et on avait dit, si jamais c'était le cas, t'en fais pas que Nintendo, il aurait jeté une armée d'avocats pour dévorer Palworld, il y aurait plus que des os, etc. Donc, là où c'est intéressant, c'est que, eh ben, ils ne sont pas couchés. Ils ont annoncé, j'apprends ça sur nintendomaster.com, qui est vraiment un nom incroyable, que voilà, que... Donc, Yuzu a répondu à Nintendo, et donc, ils vont partir au procès. C'est-à-dire que, merci Mr. Impact, voilà, c'est qu'ils ont annoncé que, voilà, en gros, ils ont pris un avocat. L'avocat, d'ailleurs, c'est qui ? C'est Michael Daly, voilà, qui est spécialisé dans les litiges et les procédures de ce genre-là, voilà. Donc, ils ont dit, bah, écoutez, vous voulez faire la guerre, bah on va faire la guerre, et on va vous démontrer que le produit qu'on fournit n'est pas illégal, et qu'il est légitime pour nous de... Voilà. Et je trouve ça quand même assez couillu. Je sais absolument pas qui a les chances de l'emporter, ni quoi que ce soit, mais ils ont un très bon avocat, et spécialisé du domaine. Ils ont choisi de ramasser le gant et de relever le défi. Je trouve ça intéressant. Ah, ils ont capitulé. Ah, mais merde, il n'y a pas de problème, c'est déjà réglé. Ah bah non, bah voilà, bah super, ah voilà, ok. J'étais là, bravo les gars, c'est courageux, bah non, ok. Ils ont déjà signé un settlement pour 2,5 millions de dollars. Ah merde, ouais, bon. Voilà ce que c'est. Putain, bah je suis désolé, Nutri-Score E. Nutri-Score E. Ils ont, voilà, scroll de news. Franchement, ça ferait une super émission. Franchement, j'aimerais bien faire une émission de stream comme ça, où on parlerait que de très vieilles actus. Ok, bon bah écoutez, c'est... Yuzu, bah, je suis très désolé, voilà, je suis très déçu, j'étais en train de dire du bien d'eux, et ben voilà, ça vous apprendra... Moralité, on aura appris deux choses cette émission, hein. La première, c'est quoi la première? C'était pas que les chimpanzés mangent le visage des gens, c'était... Je sais plus. Bah, la deuxième, ce sera qu'il faut jamais accorder le bénéfice du doute aux gens, voilà, parce que Yuzu, voilà, bah non, ils ont capitulé. Je suis bien triste. Bon, allez, on va... Putain, il y avait encore des trucs bien, j'aurais pas le temps de tout faire. On va faire ça comme ça, c'était bien. On va finir là-dessus, ça c'est rigolo. Allez, Nutri-Score B ou C. Mais surtout, c'est bien, c'est un truc un peu joyeux. Après, c'est toutes ces mauvaises nouvelles. Ben voilà, c'est un dispo. Ça devait arriver, ça a déjà existé d'ailleurs, mais là, ça va être relancé, parce que maintenant, c'est avec IA. Donc, en gros, c'est du bullshit pour trouver des capital risqueurs. C'est powered by AI. C'est une machine pour avoir des loaders des jeux vidéo chez vous. Voilà. Donc ça s'appelle... Comment ça s'appelle comment il s'appelle ce truc? Je sais plus. Voilà, GameSent. Ils sont pas chers. Le nom est rigolo, mais ils sont pas quand même allés chercher très très loin. Donc voilà, en gros, vous avez ce truc-là. Ça sent... Bah, voilà. Comme ça, vous avez l'odeur des jeux vidéo chez vous. Alors ils disent qu'il y aura des explosions, le bruit de la poudre. Vous avez vachement envie que ça pue la poudre chez vous toute la journée quand vous jouez à Battlefield. Le bruit des véhicules, ça sentira l'essence. Quelle horreur. Il y a aussi une option air pur. Il y a les forêts, ça c'est cool. Vous marchez dans une forêt, dans Skyrim, et vous êtes « Ah, ça sent bon, ça sent l'essence de pin. » Ça, c'est sympa. Il y a aussi l'odeur des tempêtes, ça peut être cool, hein, de voir l'odeur de la pluie, comme ça, c'est chouette. Voilà, il y a aussi voilà, il y a aussi, oui, vous pouvez acheter aussi des extensions pour avoir des trucs en plus, pour avoir l'odeur... l'odeur du napalm, moi, ok. Qui sont bons le matin, paraît-il. Vous avez l'odeur de l'océan, ça c'est cool. Et surtout, vous avez l'odeur de human exertion, donc en gros, ça sent les vestiaires, quoi. Donc ça, c'est bien pour les jeux de sport. Mais alors, moi, il y a quand même un truc que je trouve incroyable là-dedans, c'est que, enfin, c'est-à-dire, c'est un, bon, il y a trois raisons pour lesquelles ça s'est jamais généralisé les dispositifs à odeur. Parce que techniquement, c'est pas très compliqué, c'est un diffuseur d'odeur connecté. Hein. Le premier, c'est que, bah, c'est évident, voilà. Le premier, c'est que, voilà, évidemment. Le deuxième, c'est que ça coûte cher. C'est-à-dire que si jamais je passe toute la journée sur mon PC devant l'écran, bon, je paye l'électricité, mais j'aurais pas à payer des recharges d'électrons pour mon écran plat, quoi. Ou des recharges de cristaux liquides. Là, au bout d'un moment, quand vous avez crémé les cartouches d'odeur, bah, il faut en racheter. Donc c'est chiant. C'est-à-dire c'est un budget, c'est pas un truc qui tourne tout seul, quoi. C'est fatigant. Alors, ça, dans les jeux coquins, le flaco, les Ursuite Larry, donc, qui étaient des point and click cochons des années 90, qui étaient fournis avec des cases à gratter. Ce qui donnait un petit côté de John Waters assez cool. Et donc, vous aviez des cases à gratter pour que ça sente comme dans le jeu. Très mauvaise idée, mais là, au moins, c'était humoristique. Parce que, évidemment, c'est le genre de jeu pour lequel c'est rigolo. Là, ils sont très sérieux. Et donc, l'autre problème, au-delà de la question du coût et du fait qu'il faut acheter des recharges, c'est que les odeurs, contrairement aux images, ça reste. C'est-à-dire que si jamais je montre et j'ai une image d'un charnier sur mon écran, et après j'ai une image d'une belle forêt, mis à part question d'image rémanente, tout ça, sur l'écran ou dans mes yeux, voilà, le charnier, il est plus visible, il n'y a plus que la forêt. Si jamais vous avez diffusé de l'odeur de charnier chez vous, et que vous rajoutez un truc air pur et frondaison, vous aurez un... C'est comme le produit à chiottes qui fait qu'en fait, vous avez de la menthe au caca, vous savez. Une odeur, on ne remplace pas une autre. Elle s'additionne. Et donc, je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée. Et que si jamais vous jouez surtout à des genres de jeux différents, genre dans la même journée, vous faites un jeu de bagnole, un FPS bien gore, une promenade en forêt, et après, vous allez à un truc lovecraftien, vous allez dans un village qui sent la marée, votre conjointe revient chez vous le soir, elle dégueule, quoi. Je sais pas, c'est horrible l'idée. Ou alors il faut jouer la fenêtre ouverte, mais là vous pourrissez le quartier. Donc je sais pas, oui, ça c'est un truc qu'Agbou pourrait faire, c'est vrai que c'est un truc qu'Agbou pourrait faire, mais voilà, il faut vraiment vivre comme Agbou pour que ce soit tolérable. Si jamais vous avez un tant soit peu de vie sociale, c'est mort. C'est et puis même pour vous, quoi. Enfin, qui a envie de vivre dans une maison qui sent le charnier, quoi? Je sais pas, c'est l'outil. Ah oui, ça, par contre, c'est pratique, Ruvon. Si jamais t'as des voisins qui sont chiants, qui viennent souvent chez toi, ça peut être très efficace. Mais à ce moment-là, je veux dire, autant faire caca dans ton entrée, ça coûte beaucoup moins cher, et le résultat est le même, quoi. Bon, mais écoutez, on va rester là. J'avais deux autres trucs assez cool, mais on va en parler la prochaine fois. On va parler la prochaine fois. C'est bien de garder un peu de... Il faut savoir se faire désirer, et garder quelques petites surprises, dont un truc vachement bien, dont on parlera... Pour la semaine prochaine. Le reste, c'était moins grave, vous n'avez pas raté grand-chose. Celui-là était particulièrement cool. Donc, on va passer à l'actualité de nous. Ça fait très gros land, ça, l'actualité de nous. L'actualité de nous, c'est l'article gratuit de Canard PC cette semaine, que voici. C'est Minami Lane, donc voilà, qui est un sorte de petit jeu très mignon, voilà, que de petits jeux de gestion, on se promène, voilà, c'est trop, regardez, on a une petite rue et on bâtit des petits trucs, bon, très bien. Mais là où le jeu est intéressant, c'est un jeu français, figurez-vous. Mais là où le jeu est intéressant, c'est que, en fait, il a été développé, les développeurs ont dit, on veut en faire un jeu qui va développer de la façon la moins stressante possible, donc on va se donner 3 mois pour le faire. C'est un peu ce que Chris Roberts devrait faire, en fait. Vous donnez un temps limité. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne pratique. Vous dites, voilà, je vais faire ce jeu. Je prends quelques semaines pour réfléchir, voire un peu planifier. Je me donne telle durée pour le faire. Si à la fin, c'est pas fini, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, je le coupe. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, pas tout à fait. Parce qu'ils ont mis 6 mois au lieu de 3. Donc, ils ont quand même pas tout à fait obéi à leur objectif. Mais c'était, voilà. C'est comme ça. Qui a tranché? Parce qu'il y avait 3 jeux à 46 votes. Eh bien, j'en sais rien. Personne ne tranche. C'est la machine qui tranche. C'est comme ça chez nous. Hein. Pareil, on a un distributeur de croquettes à la rédac. Hein. Notre nourriture tombe comme ça à heure fixe. Donc, tout est automatisé. Mais je ne sais pas sur quels critères il détermine quand il y a plusieurs articles à égalité. Je l'ai su, parce que c'est dans les cahiers des charges du site que j'ai écrit. Et j'en avais discuté avec les devs à l'époque. Mais je l'ai complètement oublié. Voilà. Donc voilà, je trouve ça rigolo de faire un... Alors c'est quoi la différence avec le crunch? Oui, dépassement de timing de 100%, oui. Bon, écoutez. voyez le bon côté des choses. Tous les développeurs sont encore vivants, le jeu est mignon, l'intention était bonne, voilà. Et vous pouvez lire le... C'est le premier à être arrivé à la première place, c'est possible, t'as quoi ? Voilà. Un signe, une croquette. Ouais, mais faut pas qu'il y ait trop de croquettes, alors. Faut pas que les croquettes soient trop grosses, parce que ça ferait beaucoup, quoi. Donc voilà, donc Minami Lane. Pardon, Minami Lane, si vous voulez regarder ça, vous pouvez. Offre... Ah oui, alors, non, ça, on l'a encore, l'offre a beaucoup plu avec les jours. Je ne sais même plus. Regardez, est-ce qu'elle est encore là ? Elle est encore là, donc je vous la poste aussi. Je vous dis, c'est comme je vous dis la dernière fois, je ne sais pas quand elle s'arrête. Donc là, c'est comme les jeux à licence. Achetez-la tout de suite, parce que ça se trouve, elle finit ce soir à minuit, j'en sais rien. Et ce n'est pas un vieux truc de commercial pour vendre quelque chose, je n'en sais strictement rien. Donc si vous voulez vous abonner au jour, je vous conseille, c'est vraiment bien les reportages qu'ils font, et à Canard PC, eh ben, vous pouvez le faire maintenant, les deux pour le prix d'un, c'est quand même très bien. Ah, voilà, alors, écoutez Takuan. Takuan, Soho. Jouer à Minami Lane, c'est tout mimi, ça occupe un peu, et ça coûte que 4 euros. Voilà, une très bonne... très bonne remarque. Sinon, vous avez le pavé numérique, que vous pouvez... hop là, je vous l'envoie aussi, qui paraît mercredi, voilà, j'ai fini d'écrire aujourd'hui, paraît mercredi, et notamment, lisez le truc de la semaine dernière sur les influenceurs sexe de la Silicon Valley, je vous jure, c'est un autre monde. C'est absolument fascinant. La newsletter de Koub, toujours, qui est vraiment très bien, et sans laquelle Scroll News n'existerait pas, je tiens à le dire. Enfin, si, ça existerait, mais ça durait 17 minutes. Donc, voilà, si vous voulez vous abonner à la newsletter de Koub, c'est ici. Le pavé numérique, une proposition en soi. Oui, c'est... dire à où a disparu de YouTube. Non, en fait, fan d'Euro, tu peux le lire, c'est dans la partie gratuite du pavé numérique de la semaine dernière. En fait, l'IHU de Marseille a supprimé, a déréférencé, pas supprimé, mais déréférencé de YouTube toutes les vidéos avec Didier Raoult. Donc vous pouvez encore les trouver si vous avez l'URL direct de la vidéo, mais uniquement si vous avez l'URL. C'est-à-dire que les liens ne sont pas morts, mais vous ne pouvez plus les trouver du tout sur le site. Et ça a eu un effet très marrant, c'est que les vidéos déréférencées ne sont pas comptabilisées dans le total de vues d'un compte sur YouTube. Donc ils sont passés, je crois, de 120 millions de vues à 9 millions en l'espace d'une nuit. Et parce qu'évidemment, ça a été fait de nuit en loose day. Voilà. Et je trouve ça très mignon. C'est vraiment le côté « Non, non, ça n'a jamais existé. Cette personne n'a jamais existé, n'a jamais travaillé pour nous. » Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc les newsletters de Koub, hein, que je vous encourage à lire, si vous voulez vraiment énormément d'actualités sur le jeu vidéo. Si jamais, par contre, vous préférez avoir des actualités vieilles, dépassées, mais sélectionnées avec soin, regardez plutôt Scroll News. Pour le reste, le planning de stream, demain à 14h, vous verrez Denis qui fait du... Je les ai appris par cœur, parce que je vais être gentil avec mes petits camarades. Denis à 14h, vous verrez demain, qui vous apprendra où il a fait du vélo. Il va vous montrer où il a appris à faire du vélo. Voilà, ça sera un grand moment d'émotion, je suppose. Ce sera à 14h. Ah, je fais très bien la speakerine, mais c'est mon rêve. D'ailleurs, j'ai une perruque quelque part. C'était la perruque que j'avais pour... Mais je devrais faire ça, putain. Je devrais mettre la perruque Karen Cheryl de Tout du délire. Pour faire la speakerine. Attendez, on va faire ça. Mais ouais, c'est carrément mieux. En plus, ça fera bien parce que là, il n'y a plus le Nutri-Score dans cette partie de l'émission. Ce qui fait que l'écran est un peu nu. Alors que si je mets la perruque, d'ailleurs, qu'il faudrait que je rende à Julie. Je l'avais emprunté à Julie, mais il y a genre un siècle. Et je m'en suis quasiment jamais servi. Et si je mets la perruque, immédiatement, il y a un côté speakerine. Mais c'est trop bien. Alors, donc, demain, à 14h, vous retrouverez Denis qui vous parlera... qui vous apprendra où il a fait du vélo, où il a appris à faire du vélo. Un retour sur l'enfance de Denis à ne surtout pas rater à 14h sur la chaîne Canard PC. Mercredi, vous retrouverez l'émission Canard PC, le grand rendez-vous gaming, à 20h, présentée par Isual, avec en invité exceptionnel Hélène Ripley et moi-même. Vendredi, c'est Yvan Godet, Yvan le Fou, que vous retrouvez, ou plutôt Vent le Fou, comme on l'appelle dans le chat, que vous retrouverez à 11h pour... sa célèbre revue de presse, Le Pavé Numérique Live. Et ensuite, c'est moi que vous retrouverez à 12h30, sans perruque, pour jouer à Dark Forces Redux dans le cadre de l'EHPAD directionnel. Et on verra ce que vaut ce remake, enfin, cette mise à niveau de Dark Forces. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, franchement, je vous jure. Sans deck, des fois, je me dis, je m'humilierais moins avec un OnlyFans, quoi. C'est le côté où les gens. Franchement. Il y a plus de noblesse dans le travail du sexe, bien plus que dans le fait d'être streamer, je voulais dire. Donc c'est... Bah écoutez, c'est... Ah mais je te fais... Je te fais d'accord avec ça, mais le pire, c'est que je pense vraiment. Hein, je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup. On stigmatise tellement les travailleurs du sexe, alors que Twitcher, c'est lamentable. Je veux dire, on peut pas être plus éloigné de tout ce qui est bon qu'en étant streamer, quoi. C'est lamentable. En vidéo TikTok. Ouais, TikTok. Le pire, c'est que TikTok me dit qu'il y aurait moyen de faire des trucs rigolos, notamment pour le pavé numérique avec. Mais j'essaye de réfléchir à des formats et c'est compliqué parce que les formats très courts en vidéo, ça demande un talent très particulier. Ça demande un talent très particulier. C'est très dur de faire des. Autant les formats courts textuels, ça, je suis très fort, mais les formats courts vidéo, j'ai vachement de mal et je pense que c'est vraiment un talent, hein. Faut vraiment un talent du cut en fait, de savoir quand tu mets la chute, où tu la poses. C'est un peu comme du stand-up et c'est pas évident à faire. Hein. C'est pas évident. Merci Alain Bashing. C'est bon le talent d'Agbou? Pas forcément, parce que. Je sais pas si Agbou serait fort pour des formats courts, parce que Agbou, il est un peu comme moi, il est bon pour les digressions. Il aime bien partir en live, en fait, et dérouler, et voir où ça mène, et ça part dans une direction inattendue, et c'est rigolo. Mais quand vous avez 10 secondes, dont 3 secondes pour capter l'attention, parce qu'on sait que sur TikTok, si vous n'avez pas capté l'attention tout de suite, c'est mort, c'est très dur, en fait. C'est très dur, ça demande vraiment un timing qui je pense, ça prend, hein, mais il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Eh bien, écoutez, moi, je vous retrouve mercredi pour l'émission Canard PC présentée par Zuzu. Et puis demain, ce sera Denis, pardon, je vous ai dit. Bon, alors, en attendant, qui on raid? On va raider Arthur, ça fait longtemps. Ouais, on va raider Arthur. Ah, je pensais dire, c'était cool d'avoir raidé, comment il s'appelle putain, comment ça s'écrit Arthur de Lieré? Il peut pas avoir un pseudo normal, comme tout le monde, lui. Attendez, hop, intro, voilà. Arthur de Lieré. Arthur de Lyon. Quelle idée, franchement, ils pensent pas. Là, c'est des gens qui pensent pas à leur référencement, ça. Arthur de Lyon, ça s'écrit comme ça. Arthur de. Il n'y a plus que des doubles consonnes, vraiment. C'est vraiment tout pour que les gens fassent des erreurs. Ça marche, hein? Invalide username. Bah non, ça marche pas. Twitch, Arthur de Lyon. Ah, mais il a des tirets-bas, le salopard. Je savais qu'il y avait une arnaque quelque part. Voilà, allez, on va raider Arthur. Comme ça, vous resterez avec des gens qui ont les cheveux longs. Raid Arthur de Lyré. Et là, ça marche. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Et je vous dis bonne fin de soirée en compagnie d'Arthur. Et oui, on avait raidé Lupus la dernière fois, c'était très bien. Je me dis qu'il faudrait plus souvent raider la communauté. C'est plus sympa de raider des gens de la commu que de raider des gens qui ont déjà des centaines de viewers. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse avec Arthur pour ce soir. Et puis, ben, à bientôt. Salut.